C'est l'info, votre double page info du week-end, Martin Arnaud.
Bonjour à tous et bienvenue, c'est parti pour le 32e numéro de C'est l'info. Au sommaire cette semaine, nous parlerons de la SNCF, non pas du conflit qui oppose les cheminots au gouvernement, mais bel et bien de l'histoire de la Société Nationale des Chemins de Fer Français à travers des archives audiophoniques inédites. Nous parlerons également à Londres avec Alexander Seale des meurtres. La capitale anglaise a enregistré 50 meurtres, dont 22 en février et mars, dernière en date mercredi soir dans un quartier de la ville, et vous verrez que la plupart des victimes sont noires. Enfin, nous consacrerons une large partie de cette émission à la blockchain et au bitcoin, plus généralement aux crypto-monnaies, monnaie dite numérique. Et pour en parler, nous recevons avec Mickey Monstre Cyril Grinspan. Cyril Grinspan qui est le responsable du département ingénierie financière au pôle Léonard de Vinci. Nous sommes allés l'interroger dans son bureau à La Défense, c'était la semaine dernière, et vous écouterez donc l'ensemble de cette interview en deuxième partie d'émission. Soyez les bienvenus, c'est parti pour ce 32e numéro de C'est l'info. Restez donc confortablement installés dans votre canapé, ou si vous êtes sur la route, restez attentifs à la route, mais bien évidemment, restez également attentifs à C'est l'info. Bienvenue à tous. Pour commencer cette émission, je vous l'expliquais donc dans le sommaire, je souhaitais cette semaine revenir sur la SNCF, non pas pour parler du bras de fer qui oppose le gouvernement aux cheminots, parce que l'émission étant un podcast, les informations seraient très mal réactualisées. On va prendre un petit peu de recul et on va revenir sur toute l'histoire de la SNCF, cette Société Nationale des Chemins de Fer, de 1938 à nos jours, à l'aide d'archives audiophoniques. Je vous propose donc d'écouter ce récit. Nous sommes le 31 août 1937. L'histoire de la SNCF commence ce jour lors de la signature d'un décret-loi qui entérine la convention de la création de la Société Nationale des Chemins de Fer Français. Il s'agissait à l'origine d'une société anonyme d'économie mixte créée pour une durée de 45 ans et dont le capital était détenu à 51% par l'État.
Là-dessus, Marseille ajoutait un nouveau champ à l'agitation. Ses cheminots décidaient la grève. Les trains du midi cessaient tout trafic et des milliers de voyageurs se voyaient tout d'un coup en plein voyage stoppés sur un quai de gare.
Dans cet extrait, nous sommes en 1947. Série de grèves de grande ampleur initiée fin avril à la régie Renault et amplifiée en septembre par la dénonciation du plan Marshall. Ces grèves sont également les premières d'après-guerre auxquelles les cheminots, statut introduit en 1920, participent. Vous n'assurez plus qu'un trafic réduit. Les années 50, elles, marquent l'entrée pour la SNCF de la modernisation. Voyageurs montant sur les marchepieds et entrant dans la voiture, cheminots sur le quai d'une gare fermant la portière de la voiture, ce qui entraîne automatiquement l'escamotage du marchepied, et installations modernes avec fauteuils spacieux, les années 50 sont aussi celles des trains qui roulent et qui vont toujours plus vite.
C'est donc à ce chiffre ahurissant de 330 km à l'heure que se fixe aujourd'hui le record ferroviaire, le ruban bleu du rail.
Et dès les années 60, les gares françaises se transforment et se modernisent. Les études architecturales de la SNCF ont pour premier objectif de les rendre fonctionnelles. À Paris, la gare d'Austerlitz enterre ses lignes de banlieue et la gare Montparnasse est intégrée dans un important ensemble d'urbanisme. Quant à la gare de Lyon, elle accueille son train bleu.
Le buffet de la gare de Lyon, à Paris, demeure un monument exceptionnel d'une architecture 1900 triomphante. Et qu'il importe sans aucun doute d'en préserver jalousement l'ambiance désormais unique. Unique, car les gares elles aussi se transforment. Elles sont désormais de verre et d'aluminium. Sur le triangle de terrain disponible, les plus petites s'adaptent, modernes et lancées. Les études architecturales de la SNCF ont pour premier objectif de rendre les gares fonctionnelles et de leur assurer les dispositions les plus adaptées.
Voilà, et maintenant, nous allons battre ensemble un record du monde. Ou plutôt, nous allons vivre le moment précis où le train à grande vitesse, le TGV, a battu mardi dernier à 282 km à l'heure son propre record entre Strasbourg et Colmar. C'est là qu'ont lieu d'ailleurs depuis 4 mois les essais intensif de la rame de Presserie qui, en 1983, nous permettra d'aller de Paris à Lyon en 2 heures seulement à 260 à l'heure. Alors, en voiture s'il vous plaît, avec Michel Chevalet et la caméra d'Alain Darchy qui a fait des prouesses comme d'habitude.
Décembre 1978, alors que nous écoutons cet enregistrement issu du journal télévisuel de l'époque, l'idée est de créer un train à grande vitesse pour relier les principales villes françaises. La SNCF cherche un moyen de redresser la fréquentation de ces trains qui baissaient inexorablement. Une augmentation substantielle de la vitesse apparut comme la solution qui lui permettrait de concurrencer efficacement l'automobile et l'avion. Dans sa première version, le TGV devait être mu par des turbines à gaz, un choix motivé par une taille relativement petite des turbines, une puissance massique élevée et surtout une capacité à délivrer une puissance élevée pendant un temps important. Le premier prototype TGV 001 sortit des ateliers Alstom de Belfort le 25 octobre 1971 et fut la première rame de ce type construite.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans la grande histoire des chemins de fer, une naissance et un baptême aujourd'hui, ceux du TGV, ce train super rapide dont les premiers pas sur le papier remontent à déjà 13 ans. TGV, train à grande vitesse, en effet 2h40 pour relier Lyon et Paris, 2h dans moins de 2 ans. Songez qu'au début du siècle, il en fallait 7h30. Aujourd'hui, un conducteur très particulier, François Mitterrand, est dans la rame une foule d'invités. François Mitterrand qui a fait un discours pour expliquer que le TGV, comme d'autres services publics, doit permettre de créer des emplois, d'affronter la concurrence internationale. Ils sont aussi, a-t-il dit, une vitrine.
22 septembre 1981, nous y sommes, lancement commercial du TGV entre Paris et Lyon, tournant décisif dans l'histoire de la SNCF. Grâce à cette nouvelle ligne à grande vitesse, Paris n'était plus qu'à 2h40 de Lyon, une durée ramenée à 2h en 1983. Par la suite, la machine est lancée. Le 5 décembre 1989, le TGV Atlantique bat le record du monde de vitesse, 482,4 km par heure. Le 18 mai 90, le TGV atteint les 513,3 km par heure. Et le 3 avril 2007, la SNCF établit même un nouveau record de vitesse sur le rail. Record de vitesse mondiale estimé à 574,8 km/h quelques semaines avant l'ouverture d'une nouvelle ligne à grande vitesse Paris-Strasbourg. Mais ce TGV ne fait pas que des heureux. 17 février 1991, manifestation dans la région de Lille contre le projet d'un tracé du TGV près de maisons d'habitation.
À 20 km au sud-est de Lille, dans la petite commune de Seclin, la bataille du rail a commencé. Depuis 4 jours maintenant, chaque matin, les opposants au tracé du TGV barrent la route aux camions qui livrent les gravats nécessaires aux premiers travaux.
Et de ce qui est des grèves, eh bien ces grèves perdurent dans le temps. Nous sommes ici en 1995, nous sommes au quatrième jour d'une grève en ce 27 novembre. Et le journal de 20h commence évidemment par
ce qui concerne le conflit proprement dit, une nouvelle négociation cet après-midi avec le ministre des Affaires sociales, M. Barrot, n'a pas abouti. Les cheminots ont tout de même obtenu de conserver leur régime spécial de retraite. Demain, Force ouvrière, la CGT, appelle à une nouvelle journée de grève contre la réforme de la sécurité sociale. Le trafic ferroviaire risque d'être pour la 5e journée consécutive très fortement perturbé. Pascal Golomer, Laurent Bailly.
Il y a une assemblée générale ce matin à 10h30, donc la grève a été reconduite.
Séance d'information cet après-midi au fond d'un hangar. Une petite poignée de grévistes, des sédentaires comme on les appelle, ils travaillent en principe au guichet de la gare de l'Est. Et ils sont désormais tout aussi déterminés que leurs collègues roulants à poursuivre le mouvement.
Quand le président Bergougnou convoque les organisations syndicales, on pouvait penser peut-être qu'il avait d'autres propositions à faire sur le contrat de plan, et il n'en est rien. Donc aujourd'hui, nous n'avons aucune raison, et les cheminots d'ailleurs le montrent massivement encore aujourd'hui, pour arrêter le mouvement.
aucune avancée aujourd'hui du côté de la direction de la SNCF. Surprise en revanche, en début d'après-midi, Jacques Barrot invite tous les syndicats à son ministère pour évoquer évidemment le fameux régime des retraites, départ à 55 ans et durée de cotisation moindre que dans le privé. Un régime que le gouvernement veut réformer, mais auquel s'accrochent les cheminots. Ce soir, le ministre l'a promis, rien n'est décidé.
Objectif, consolidation à moyen et long terme de nos régimes spéciaux de retraite. Méthode, une commission composée de personnalités indépendantes et compétentes. Assurance, il y aura une concertation approfondie.
Pour les syndicats, pas de quoi être rassurés.
Concernant le statut, notamment le régime de retraite, le gouvernement n'a pas l'intention, manifestement, de donner des signes d'apaisement aux cheminots.
Rien de neuf, confirmation d'une mobilisation nécessaire pour continuer d'essayer de faire reculer le gouvernement sur cet aspect particulier, comme sur la question du contrat de plan.
Et ils se retrouveront tous demain, sous une seule banderole, dans la manifestation contre le plan sécu du gouvernement.
Et puis, les années passent, ne se ressemblent peut-être pas, mais la SNCF continue d'évoluer, TGV, TER, et en vient également la question du tarif des billets de train. Reportage en juin 2008, consacré aux multiples tarifs de billets de train que propose la SNCF.
18h, c'est l'heure de pointe. Dans ce corail Le Mans-Paris, comme dans les autres trains, la plupart des voyageurs comptent sur leur carte de réduction pour payer moins cher.
Ça peut être 50% si on s'y prend à l'avance ou 25% si c'est plus tard, mais j'ai toujours ma moindre réduction. Ouais.
Le problème, c'est qu'on part en général le vendredi soir, on revient le dimanche et c'est là où on est à toujours que 25% et jamais 50%.
En cause, le calendrier tarifaire de la SNCF. En période bleue, les réductions vont jusqu'à 50%, alors qu'en période blanche, elles sont au maximum de 25%. Jusqu'à présent, les périodes blanches étaient limitées au vendredi soir, au dimanche soir et au lundi matin, pour les départs et retours de week-end. À partir du 6 juillet, elles deviendront quotidiennes, tous les matins et tous les soirs, aux heures de pointe.
Et puis enfin, la SNCF, c'est également cela.
On a des gilets rouges, on a des gilets bleus, comme moi, des volontaires SNCF qui viennent pour rassurer, orienter les clients, pour les aider à se réorganiser dans la gare.
Et oui, les grands départs en vacances alors que les routes sont bondées, les gares, elles aussi, attendent toujours au mois d'août et à Noël, à chaque fois plus de 1 million de voyageurs. Images et interviews réalisées à la gare de Lyon, c'était en 2010.
Première colo pour tous les deux. Et on part le vendredi parce que c'est bien plus pratique. On espère qu'il y a moins de monde aujourd'hui que demain.
Voilà donc pour cette histoire. Alors évidemment, il manque énormément de passages, mais on voulait essentiellement mettre en lumière les progrès techniques de la SNCF et puis évidemment eh bien, les premières manifestations, des manifestations qui ne datent pas d'hier. On entendait tout à l'heure cet extrait donc de manifestation datant de 1947.
Ici Londres.
Ici Londres avec vous Alexander Sill. Bonjour mon cher Alexander.
Bonjour Martin.
Alexander, on va revenir évidemment sur cette terrible information qui s'est donc passée à Londres, hein, où vous vous trouvez, un jeune homme poignardé dans la rue. C'est, il faut bien le souligner, nous ne sommes que le 5 avril, à l'heure où nous enregistrons cette émission, le 50e meurtre de l'année.
Mercredi soir, peu avant 20h, une patrouille de police a retrouvé un jeune homme à Hackney, dans le nord de Londres, qui a été grièvement blessé. Une demi-heure plus tard, la victime d'une vingtaine d'années a décédé des suites de ses blessures. Il s'agit alors du 50e dans les rues de Londres depuis le début de l'année 2018. Je vais vous donner les statistiques tout à l'heure. À moins de 3 km de là, un homme de 53 ans est décédé chez un bookmaker après avoir été agressé. Les décès font suite à deux tirs mortels lundi et à l'assassinat mortel d'un cambrioleur présumé mercredi. Mardi 3 avril, Aman Shakur a perdu la vie après avoir reçu une balle à bout portant devant le Walthamshaw Leisure Centre. au nord de Londres aussi. À 16 ans, il est la victime le plus jeune à ce jour. Une demi-heure plus tôt, une voiture a tiré sur Tanisha Melbourne à Tottenham, aussi dans le nord de Londres, laissant la jeune femme de 17 ans sans vie. Dans les deux cas, la police suit la piste de la violence entre des gangs. Après les coups de couteau à Hackney, deux garçons, tous les deux âgés de 17 ans, ont été arrêtés mercredi soir. Ils sont soupçonnés de meurtre. Le surintendant Sue Williams a déclaré que la Metropolitan Police travaillait dur pour prévenir de nouvelles violences et assurer la sécurité des gens. Sophie Linden, adjointe au maire de Londres pour la police et la criminalité, a déclaré que l'hôtel de ville donnait la priorité à la lutte contre cette violence. « Nous ne prétendons pas qu'il n'y a pas de problème à Londres, mais nous allons nous en sortir », a-t-elle déclaré. Alors voici les statistiques. En février, par exemple, 15 personnes sont mortes à Londres, alors qu'à New York, 11 personnes ont été tuées. Mais il est important de souligner que la capitale britannique est la ville la plus sûre. À Londres, 130 personnes ont été tuées et à New York, le chiffre est de 239 personnes l'année dernière. Des politiciens de l'opposition ont tous dit que les réductions drastiques du nombre des policiers sur le coup et la fermeture des ressources des centres communautaires, par exemple, des centres de jeunesse, par exemple, ont contribué à l'augmentation des crimes violents.
Merci beaucoup, Alexander. Oui, il faut le rappeler, un 50e meurtre de l'année. Merci, Alexander, et vous revenez la semaine prochaine, bien évidemment. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
C'est l'info. L'invité de la semaine.
Un invité très thématique cette semaine puisque nous recevons Cyril Grinspan. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Vous êtes directeur du département ingénierie financière au pôle Léonard de Vinci, un pôle qui se situe à La Défense à Paris. Pour m'accompagner dans cet entretien, Mickey Monstre en duplex. Bonjour Mickey.
Bonjour.
Alors Cyril Grinspan, vous êtes donc le directeur de ce département ingénierie financière donc du pôle Léonard de Vinci et au sein même de ce département, vos étudiants étudient les crypto-monnaies, la blockchain. On va donc en parler avec vous dans cet entretien un petit peu exclusif, un entretien qui sera un petit peu différent de ceux que nous pouvons réaliser sur C'est l'info habituellement. Cyril, depuis combien de temps vous intéressez à ces crypto-monnaies et plus généralement, qu'est-ce qui vous a fait vous y intéresser?
Alors, par curiosité, j'avais découvert le Bitcoin, en fait, relativement tôt. Mais je ne me suis pas penché dessus concrètement. Hein. La première fois, je devais être à travailler pour une banque d'investissement à Londres. Et j'avais découvert le Bitcoin à travers les yeux des personnes qui travaillaient là-bas comme des traders et qui présentaient le Bitcoin comme une monnaie pour délinquants, pour terroristes, un peu le discours qu'on entend encore aujourd'hui. Et j'avais vaguement ouvert le papier fondateur du Bitcoin et j'avais vu des maths, essentiellement des maths. Et j'étais un petit peu surpris de la réaction de Roger, de certaines personnes, alors que pour moi, c'était finalement des résultats de maths, plus ou moins. Alors bon, effectivement, appliqué à un problème particulier de transfert d'argent, mais pour moi, c'était, enfin, ça ne méritait pas ce rejet-là. Alors voilà, c'est resté un petit peu comme ça pendant quelques années, jusqu'au jour, alors je ne sais plus exactement quel a été le déclic, il y a dû en avoir plusieurs, mais je me rappelle notamment d'un étudiant qui est venu dans mon bureau un jour et qui m'a dit « Monsieur, vous devriez regarder ça ». Et ça, c'était le Bitcoin. Et j'avais trouvé l'étudiant un peu gonflé hein, de s'adresser comme ça à son professeur et lui conseiller de regarder une chose hein, pour qui il est, lui, pour conseiller son prof. Eh ben, j'avoue qu'il avait raison. Voilà. J'ai fait ce qu'il m'a dit et j'ai regardé de plus près Et effectivement, et je ne cesse de m'y intéresser jour après jour. Voilà un petit peu l'histoire de ma relation avec le Bitcoin.
Donc, ce qui vous intéresse, Cyril, ce sont avant tout les mathématiques derrière le Bitcoin.
Pour moi, oui. Pour moi, c'est ça qui est le plus rigolo. Enfin, c'est les... Enfin, les... Oui, les mathématiques... Bah, disons que ce que je trouve le plus rigolo, c'est l'aspect décentralisation de la monnaie. C'est ça le véritable... Enfin, pour moi, enfin, il y a plusieurs nouveautés dans le Bitcoin, mais quand même, le fait que l'on puisse créer une monnaie complètement décentralisée, hein, qui n'est pas sous le contrôle d'une autorité centrale, qui peut s'échanger sur un réseau pair-à-pair, c'est pas rien. Enfin, c'est pas, ça paraît rien pour, je sais pas, pour les gens. Ils se disent ouais, et alors ? Non, c'est quand même un problème très compliqué, très difficile, et il y a des maths qui permettent de le justifier. Et, voilà, bon, c'est peut-être pas forcément des grandes maths, mais enfin, quand même, il y a là un lien clair établi par Satoshi Nakamoto entre la théorie des probabilités et la théorie de la sécurité en informatique. Bon, c'est pas non plus nouveau, hein. Il y avait clair qu'il y avait des liens établis depuis longtemps entre les probabilités et la cryptographie, notamment. Mais bon, là, voilà, c'est un lien intéressant, et puis c'est surtout la manière dont ça a été résolu, hein, en utilisant des choses comme les preuves de travail. Ça, c'est assez surprenant. Et voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse, hein. Effectivement, c'est pas tout à fait l'aspect trading de crypto-monnaie. Moi, c'est plutôt comment ça marche, et puis oui, est-ce que ça peut changer.
Alors Cyril, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je souhaiterais que l'on voit ensemble, hein, avec vous, ce qu'est finalement la blockchain, parce que on emploie beaucoup de termes, hein, un peu partout dans les médias, sans forcément connaître l'exactitude de ces derniers. Donc voilà, on va peut-être rappeler ce qu'est la blockchain, et puis ce que sont les mineurs, hein, ces personnes qui peuvent écrire des nouvelles crypto-monnaies, si je ne m'abuse, hein.
J'avais l'habitude de dire la chose suivante en résumé, quand je vais encore quelques conférences sur le sujet. Alors, je disais quelque chose comme la blockchain, c'est un réseau informatique pair à pair dans lequel personne ne fait confiance à personne, et à travers lequel pourtant tout le monde a la possibilité de prouver sa bonne foi. Mais en vérité, c'est pas tout à fait ça, hein. C'est vrai que ça permet de résoudre un problème de confiance dans un système informatique, mais en fait, je pense qu'il faut en revenir aux fondamentaux de la blockchain. Les fondamentaux de la blockchain, ce sont deux articles écrits par des cryptographes américains au Bell Labs, hein, c'était un super... Institut de recherche et développement, le Bell Labs, qui a malheureusement disparu aujourd'hui. Et ils avaient eu l'idée de créer un serveur d'horodatage. En fait, le problème qu'ils avaient regardé à l'époque, donc c'était dans les années 90, c'était le suivant. Comment imaginer la vie d'un institut de dépôt de brevets dans un monde totalement numérique ? Et alors le but de cet institut, c'est qu'il doit pouvoir délivrer des certificats de brevets aux personnes qui viennent déposer des logiciels, et que le certificat de brevet permette aux détenteurs de prouver l'antériorité d'une découverte si jamais quelqu'un vient et prétend avoir découvert quelque chose de absolument neuf, ce qui ne serait pas le cas. À ce moment-là, la première personne pourrait lui dire: ah non, monsieur, là, vous avez réinventé la poudre, c'est moi qui l'ai fait avant vous, et voilà la preuve. Voilà. Donc, c'est un problème de cryptographe, et il a été résolu de la manière suivante. Ils se sont dit, bah, écoutez, voilà, c'est pas compliqué. Le certificat de brevet qui va venir, que nous, institution de dépôt de brevets, nous allons délivrer, eh bien, il va reprendre le précédent dépôt de brevet que nous venons juste de délivrer. Voilà. De sorte que l'existence de ce nouveau certificat, eh bien, contiendra la preuve que le premier est venu avant. Voilà, c'est un peu ça l'histoire au départ. Donc, ça marche. Et donc là, c'est une chaîne listée, si vous voulez, de dépôts de brevets. C'est ça à l'origine. Et puis après, ils se sont dit, oui, mais alors imaginons que cette institution ait beaucoup de succès et que plusieurs personnes viennent quasiment en même temps vouloir déposer des brevets. Comment on va faire ? Alors là, ils se sont dit, bon, bah alors plutôt que de faire une liste des dépôts de brevets, enchaînés les uns les autres, on va constituer des blocs. Et puis, on va enchaîner les blocs les uns à la suite des autres. Voilà ma proposition, notre proposition à Berestorneta, de ce que l'on appelle un serveur d'eurodatage, un timestamp serveur. Et Satoshi Nakamoto,
qui est le créateur. Hein,
il a eu vent de ça. Hein. Ce n'était pas forcément des résultats de cryptographie très connus. Mais il a eu vent de ces résultats et il a eu l'idée de génie de les appliquer à un autre contexte, celui de la finance. Parce que voilà, c'était les sous qui l'intéressaient, probablement. Et donc, il a appliqué au contexte de la finance et pour un problème, voilà, créer une monnaie décentralisée où là encore, on a besoin de certificats. Hein, il a fait en sorte que les transactions financières soient comme des certificats de dépôt de brevets. Ça a été l'idée qui a un petit peu motivé Satoshi Nakamoto à la création du Bitcoin.
Ouais, Satoshi Nakamoto, le fondateur de cette monnaie virtuelle qu'est le Bitcoin et qui date de 2009. Mickey Monstre pour la suite de l'entretien avec Cyril Grinspan, qui, je le rappelle, est directeur du département ingénierie financière au pôle Léonard de Vinci à La Défense.
On nous dit cette fameuse chaîne de blocs quasiment infaillible. Mais y aurait-il des problèmes techniques que l'on ne soupçonnerait pas ? Première question. Et est-il possible que derrière un code et une identité puisse se cracher relativement facilement ?
Le Bitcoin a été conçu justement pour répondre. C'est une réponse à des questions de sécurité informatique. Le papier fondateur du Bitcoin justement explique, disons, étudie une attaque possible et montre que, sous certaines conditions, cette attaque ne marche pas. Alors, il est clair qu'il n'y a pas de problème. Là, il y a différents problèmes qui se posent. Le problème de la double dépense, lui, il est résolu. Là, voilà. Donc, c'est assez clair. Le problème de la double dépense, c'est le plus important dans le Bitcoin. Hein, c'est on peut pas envoyer deux fois le même argent à deux personnes différentes. Hein. Et quand c'est de l'argent liquide, ben l'argent liquide, on l'a donné. J'achète une baguette de pain, je donne 5 euros, elle me rend la monnaie, la boulangère, et puis c'est fini, j'ai plus mes 5 euros. Mais sur Internet, si c'est plus tout à fait pareil, quoi. Si c'est un fichier et que je l'envoie, je peux toujours faire du copier-coller. Donc c'est pas simple. Et on n'avait jamais. Alors, c'est pas simple. Et en plus, c'est encore plus compliqué quand on est dans un monde totalement décentralisé. Hein. S'il y a une personne qui contrôle toutes les transactions, c'est plus simple. Elle va vérifier l'antériorité d'une transaction par rapport à une autre et pourra rétablir le compte des uns et des autres. C'est possible, mais déjà, sur cette personne incombe une responsabilité énorme. Elle doit tout vérifier. Et c'est aussi pour la raison pour laquelle même les projets de monnaie numérique avaient tous échoué parce que y avait un nœud central qui était faible. Là, dans Bitcoin, y a aucun nœud, il y a une topologie a priori totalement décentralisée, hein, il n'y a pas de nœuds centraux. Donc là, oui, dans ce contexte particulièrement difficile, eh bien, on prouve qu'on ne peut pas envoyer deux fois le même argent que l'on possède à deux personnes différentes qui ne se connaîtraient pas. Voilà. Ça, c'est prouvé mathématiquement. C'est mal prouvé par Satoshi. Il y a une petite erreur dans sa démonstration, mais c'est prouvé. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres attaques possibles dans Bitcoin, notamment ce qu'on appelle le selfish mining, qui est une véritable attaque. Mais je pense qu'il y a des manières de corriger un petit peu le protocole Bitcoin pour rendre l'attaque pas tout à fait inopérante, mais en tout cas pour faire passer l'envie aux éventuels attaquants de se lancer dans une telle attaque.
Alors, en plus du Bitcoin créé par Satoshi donc en 2009, 1200 crypto-monnaies sont aujourd'hui sur le marché. À votre sens, quelles sont celles qui vont disparaître, celles qui vont émerger? Et puis, en ce qui concerne la spéculation, faudrait-il prémunir ces crypto-monnaies contre la spéculation? Parce que l'on sait qu'on peut tout perdre sur du très très court terme.
Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, en 2008-2009, il y a eu l'invention du Bitcoin. Donc, c'est une monnaie décentralisée totalement nouvelle. Et puis, les autres se sont dit, et moi. Moi aussi, je veux ma crypto-monnaie. Puisque ça marche, on va faire des petites variations autour de la crypto-monnaie. Et puis voilà. Donc, il y a eu différentes variations. Hein. Par exemple, Litecoin est une variation du Bitcoin. On a l'habitude de dire que c'est un clone du Bitcoin. C'est comme un clone, mais les paramètres... Oui, c'est comme un clone du Bitcoin avec des paramètres un peu différents. Je peux passer en revue quelques cryptos, mais le fait est que il n'y a pas véritablement de nouveautés théoriques dans toutes ces nouvelles crypto-monnaies, quoi. Il y a des changements entre elles, mais il n'y a pas la véritable révolution qu'il y a eu dans Bitcoin, à savoir l'invention des smart contracts, la première forme matérielle de smart contract qui avait été prophétisée par Nick Szabo. Donc ça, c'est une invention géniale du Bitcoin. Et la deuxième invention, c'est la monnaie complètement décentralisée, voilà, avec l'utilisation de la preuve de travail pour apporter la décentralisation dans un univers numérique où circulerait de l'argent. Donc ça, c'est deux inventions majeures. Il y a eu des nouveautés après, mais ça n'a pas été révolutionnaire. Je peux prendre Ethereum, par exemple, qui est la deuxième crypto-monnaie la plus populaire. Ethereum, n'a fait que changer le langage de script qui permet de rédiger les transactions à utiliser, disons, un langage de script plus populaire, hein, puisque c'est un langage un peu, ça s'appelle Solidity, hein, qui ressemble un peu à des langages, enseignés à l'école, comme des JavaScript, par exemple, donc plus proche des personnes, hein, qu'un langage de Bitcoin qui a été volontairement conçu pour être totalement rudimentaire pour des questions de sécurité. Hein. Et voilà. Donc Ethereum fait ça en changeant aussi quelques paramètres. Les blocs sont validés plus tôt. Bon, c'est pas tout à fait le concept de blockchain. C'est une petite variation avec un protocole légèrement soi-disant amélioré qui s'appelle Ghost. Mais il n'y a pas de nouveauté, quoi. C'est pas parce qu'on change de langage de programmation qu'on a changé radicalement. Bon, après, il y a tellement de marketing, d'aspects de communication des gens, parce que après, il y a beaucoup d'argent autour de ça. Donc, je comprends que la fondation Ethereum ait intérêt à expliquer que leur crypto-monnaie, c'est la meilleure du monde, hein. Et puis, donnez-nous de l'argent. Et puis, on va être, grâce à vous, encore plus riche, encore plus fort. Mais il n'y a pas de nouveauté scientifique réelle. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui encore, toute la recherche principale pour étendre les fonctionnalités de la crypto-monnaie se font sur Bitcoin proprement dit. Et c'est sûr, il faut, pour comparer les crypto-monnaies entre elles, il faut comparer également le nombre de développeurs qui travaillent à développer la crypto-monnaie proprement dit. Aujourd'hui, sur Bitcoin, on a Bitcoin Core, il y a une vingtaine de développeurs à plein temps. Mais des développeurs, des très très forts développeurs, hein, qui développent le Bitcoin, le code Bitcoin lui-même. Sur Ethereum, il y en a deux dans le monde. Par contre, il y a beaucoup de start-up qui se développent sur Ethereum. Donc ça, c'est vrai. Et beaucoup plus de start-up que sur Bitcoin, peut-être. Mais toutes les nouveautés scientifiques, c'est encore dans l'univers de Bitcoin. Donc là, j'ai parlé de Bitcoin, Ethereum. Après, il y en a d'autres. Vous voyez, Litecoin, il y a essentiellement une personne ou deux. Ils copient Bitcoin à chaque fois. Après, on rentre dans les crypto-monnaies beaucoup plus... Après, elles n'ont pas été vraiment étudiées, ces crypto-monnaies. Donc, il y en a beaucoup qui disent que c'est des shitcoins. Hein. Voilà, des cryptos, voilà, elles existent, mais qu'est-ce qu'elles font ? Sont-elles vraiment sûres ? Cryptographiquement parlant, on n'en sait rien. Par contre, elles s'échangent sur des plateformes et donc sont cotées, et la loi de l'offre et la demande, et puis voilà, et ça marche comme ça.
Alors, battre les monnaies est un pouvoir régalien. On a vu depuis quelques jours, d'abord à Singapour, puis après à l'Union européenne, des déclarations contre le Bitcoin. Peut-on dire que ces jours sont comptés ?
Non, ça, ces jours sont pas comptés. Ça, on peut pas empêcher quelqu'un de se connecter sur un réseau, de télécharger des fichiers et puis de vouloir devenir un nœud du réseau Bitcoin. Ça, c'est faire la chasse à ceux qui sont des nœuds Bitcoin. Ça, c'est vous à l'échec. Ça, c'est comme si vous voulez débrancher. C'est comme si les gens voulaient débrancher Internet. Enfin, ça a pas de sens, quoi. Non, par contre. Oui, il y a des arnaques. Ça, il faut protéger les gens contre d'éventuelles arnaques. Hein. Voilà, ça. Notamment, il y a des plateformes qui sont peu scrupuleuses. Hein. Les gens envoient leur argent à des plateformes, sur des plateformes, et puis, les plateformes ne conservent pas très très bien l'argent des gens, et puis ils se font hacker, et puis les gens perdent leur argent, ou bien c'est des plateformes mais qui sont mal gérées. Là, il y a des problèmes, quoi. Voilà. Là, il faut faire attention. Là, je pense que les régulateurs doivent réguler les plateformes d'échange pour éviter aux gens qu'ils se fassent arnaquer. Voilà.
Comment pensez-vous du fait que, par exemple, la Suède va essayer de faire basculer le Swedish Krona en Swedish Krona digital ? Est-ce que vous ne pensez pas que si tous les pays se mettent à faire des monnaies digitales, on aura vraiment de très gros admettons que le dollar passe en digital et en blockchain ou en lightning, est-ce que ce sera pas un espèce de revival de ces monnaies et qui redeviendront complètement légitimes face au Bitcoin et aux autres monnaies électroniques?
Effectivement, le cash liquide est voué à disparition, hein, ça on le sait, hein, tout le monde les grandes de ce monde l'annoncent régulièrement. Encore une fois, la véritable nouveauté dans le Bitcoin, comme vous dites, c'est la décentralisation, le fait que la monnaie soit complètement décentralisée. Voilà. Ça,
c'est vraiment antithétique avec des gouvernements d'État.
Oui, on peut toujours, si vous voulez, on peut tout à fait imaginer que on puisse avoir une monnaie décentralisée contrôlée par un État. Hein. En gros, l'État serait le seul mineur. Mais dans ce cas-là, si vous voulez, ça n'a aucun intérêt. La preuve de travail n'a aucun intérêt, quoi. On peut cloner Bitcoin et puis décider que finalement, il n'y a qu'un seul mineur possible, c'est un tel. Ça n'a pas d'intérêt. La preuve de travail, c'est une idée géniale pour créer la décentralisation dans un système informatique. Si le système n'est pas décentralisé, si vous cherchez un autre problème, il vaut mieux chercher une autre solution. Le blockchain, c'est une base de données très lourde, hein. C'est pas la solution à tous les problèmes. Moi, je sais bien que la plupart des gens pensent blockchain maintenant, n'importe quel problème, blockchain. Le blockchain est la solution. Mais c'est pas vrai, hein. Surtout, la plupart du temps, les problèmes que se posent les gens, c'est des problèmes très centralisés. Et là, il y a probablement d'autres solutions à apporter qu'une blockchain.
Cyril, pourriez-vous expliquer très très rapidement ce qu'est la preuve de travail ?
Alors, la preuve de travail, c'était une idée, c'était un timbre numérique. Voilà. C'est un timbre. C'est une idée qui a été avancée par. Alors j'ai trop de mémoire là. Il y a plusieurs cryptographes à l'origine. C'était inventé par des cryptographes américano-israéliens et pour lutter contre le spam sur Internet. Voilà, pour lutter contre le spam. Vous recevez plein de spam. Comment faire pour lutter contre le spam ? Eh bien, ces gens ont eu l'idée suivante. Bon, bah écoutez, on reçoit du spam, très bien. Alors, pour éviter le spam, c'est simple, on va faire payer l'envoi de courrier électronique. C'est-à-dire que quelqu'un veut m'envoyer un courrier, bah, il va devoir mettre un timbre dessus, d'une certaine façon, qui va prouver qu'il a payé. Alors évidemment, ça peut pas être une monnaie, mais ça va être, il va payer, il va donner la preuve qu'il a payé de sa puissance de calcul. Donc son ordinateur va devoir fournir la preuve qu'il a travaillé, qu'il a tourné, au moins pendant, je sais pas, moi, bon, un petit peu de temps, hein, qu'il s'est fatigué, donner la preuve que l'ordinateur s'est déjà fatigué pour obtenir une solution à un problème un peu compliqué. Il me donne cette solution. Moi, j'ai la preuve, c'est comme un timbre numérique, c'est comme de l'argent. L'ordinateur a été monopolisé pour résoudre un problème. Bon, ben, vous voyez que si on obligeait toute personne qui veut envoyer un courrier électronique à réaliser une mini-preuve de travail, reconnaissez que les problèmes de spam seraient quand même considérablement...
Résolu.
Voilà, effectivement, on comprend un petit peu mieux cette force de travail. Est-ce que finalement, Cyril Guinspan, le Bitcoin n'est pas précurseur d'une monnaie unique, mondiale, et cette monnaie serait, dans l'éventualité, transparente?
Ah ben c'est une monnaie unique décentralisée, oui. C'est l'équivalent, un peu comme l'or, voilà, une espèce d'or numérique que pourraient s'échanger les gens. Bon, il y a plusieurs personnes qui invitent les gens, quand ils présentent un peu le sujet, à imaginer le Bitcoin comme de l'or numérique. C'est pas faux comme idée, hein. Le problème aujourd'hui, et ça ne me plaît pas, c'est que le Bitcoin est vu comme un investissement. Voilà. Et moi, je n'aime pas ça. Le Bitcoin n'a pas été conçu pour être un investissement. On n'achète pas des Bitcoins pour sa retraite ou pour espérer ensuite acheter une voiture ou autre. C'est pas ça, quoi. Ça n'a pas été inventé pour ça. Le Bitcoin, ça a été inventé comme pour être la monnaie idéale d'un monde cypherpunk. Voilà, c'est ça. Ça a été inventé pour que ça puisse être de l'argent liquide qui s'échange. Voilà. Aujourd'hui, il y a effectivement des problèmes de scalabilité dont on a parlé qui font que c'est plus tout à fait ça. Mais ça doit être ça. Moi, je sais bien qu'il y a des traders de crypto-monnaies. Je ne peux pas empêcher ça, mais c'est bien à la limite, hein, tant mieux, hein, mais la raison d'être du Bitcoin, c'est d'être de l'argent liquide, voilà, et il faut que ça le redevienne.
Cyril Guinspan, qu'est-ce que vous souhaitez réellement aujourd'hui pour le Bitcoin ?
Personnellement, j'aimerais qu'elle soit plus que ça, qu'elle soit une monnaie, voilà. Je voudrais que le Bitcoin, qu'on puisse échanger des Bitcoins comme on s'échange des euros, qu'on se paye les uns les autres en Bitcoin. Là, le Bitcoin, le rêve de Satoshi Nakamoto aura été... Encore, je peux même pas dire, il avait jamais pensé à ça, en fait. Ça a toujours été une expérience au départ pour lui, le Bitcoin. Je pense pas qu'il ait jamais imaginé que le Bitcoin puisse devenir mainstream, comme on dit, quoi.
Ouais, c'est-à-dire que finalement, à terme, Cyril Guinspan, vous voyez cohabiter le Bitcoin, les autres crypto-monnaies avec des monnaies plus traditionnelles telles que l'euro, le dollar ou la livre sterling.
Oui, bien sûr, c'est ce qu'on voit apparaître maintenant, hein. Oui, bien sûr, je pense que Alors évidemment, le Bitcoin est beaucoup plus fragile que toutes ces monnaies parce qu'elle est beaucoup plus sensible à la cryptographie que l'euro ou le dollar, hein, dont la confiance repose sur un État. Hein, ou sur des gouvernements, sur des banques centrales plutôt que sur un gouvernement, sur des États, sur des banques centrales. Là, le Bitcoin repose uniquement sur des algorithmes de cryptographie. Donc c'est plus fragile, Mais ça donne un bel édifice, c'est vrai, c'est assez joli comme édifice. Et franchement, ça ne mérite absolument pas le rejet que j'ai pu...
Ouais, le rejet, effectivement, de Warren Buffett, de Bill Gates, et puis il y avait la semaine dernière un rassemblement du G20 en Argentine, où la plupart des pays ont déclaré, ou en tout cas se sont déclarés contre les crypto-monnaies.
Pas tous.
Oui, pas tous, mais quand même une grande majorité. Hein.
Non, mais c'est vrai qu'il y a... Par exemple, j'arrive pas à... Non, mais le discours, la blockchain, c'est bien, le bitcoin, c'est nul. Qu'on n'aime pas la décentralisation. Hein. Je préfère que Internet soit décentralisé plutôt que dans les mains de quelques groupes puissants qui puissent gérer toutes nos données personnelles. Bah de même, moi j'aime bien le fait qu'il y ait une monnaie qui soit décentralisée. Bon, bah les gens n'aiment pas, bah voilà, ils n'achètent pas de bitcoin, ils font autre chose. Enfin, je ne vois pas en quoi ça mérite le rejet de certaines personnes.
Bah, c'est toujours pareil, il y a toujours des pros et des cons, des contres. Il y a toujours des pros et des contres. Alors, je vais vous poser une autre petite question, on va essayer d'aller un peu plus loin. Malgré toutes les théories, la monnaie, même si elle est électronique, est-ce qu'on n'est pas toujours dans un système capitaliste 3.0 ou 4.0 où on a toujours les mêmes inégalités malgré le fait que tout le monde dise que Bitcoin c'est génial?
Oui, il y a effectivement. Hein, donc le Bitcoin a été conçu comme une monnaie idéale dans un monde cypherpunk, comme je disais tout à l'heure. Si je disais ça, c'est parce que effectivement c'était un problème. Posé par des cypherpunks et qui sur lesquels beaucoup de personnes se sont interrogées et se sont plantées beaucoup parce que les réponses proposées ne marchaient pas. Donc c'était un vrai problème de cypherpunk résolu par Satoshi Nakamoto. Mais effectivement, Satoshi parle pas beaucoup de politique quoi hein, dans ses messages électroniques. Oui. Le seul message à caractère politique que j'ai pu trouver chez lui, c'est que Milton Friedman, donc l'idéologue du libéralisme et l'idole de beaucoup de gens libéraux, souvent des républicains américains, disons déjà, imaginez ce qui pourrait ressembler à un bitcoin. Voilà. Hein, donc il y a effectivement un courant de pensée ultra-libertaire américain, mais libertaire de droite, quoi. Hein, du courant Friedman, qui est derrière le bitcoin. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ben, les Américains et Trump, là, sont pas violemment opposés au Bitcoin comme peuvent l'être certains pays, autoritaires comme
européens ou alors Hong Kong, Singapour.
Oui, mais certains, il y a des pays autoritaires comme le Venezuela hein, où le Bitcoin est totalement interdit. On peut aller en prison. Hein. Après, en Chine, c'est pas très clair. La Russie, on ne sait pas très très bien. Une fois c'est mal, une fois c'est bien.
Oui, tous ces pays, hein, Venezuela, Russie, qui décident de créer comme ça leur propre crypto-monnaie, peut-être pour contrer une idéologie occidentale. Est-ce que vous saluez ces décisions ou au contraire, ces pays n'ont qu'à bien se tenir et se rassembler derrière des crypto-monnaies déjà bien connues? On peut citer évidemment le Bitcoin.
J'attends de voir, je regarderai leurs propositions, mais je vous dis, pour moi, c'est la décentralisation qui compte. On verra. En tout cas, ils n'ont clairement pas intérêt à faire une blockchain. Et d'ailleurs, on le voit bien à travers R3CEV, qui était une émanation des principales banques d'investissement dans le monde, qui, il y a 2 ans... En fait, ça a été... C'était un peu ça, finalement, le début du buzz blockchain. Il y a eu, il y a 2 ans, des grandes banques d'investissement qui sont réunies et ont créé une association qu'ils ont été intitulée R3CEV. Et le but annoncé était de prendre le meilleur du Bitcoin au service de la haute finance, la finance de marché. Et c'est là que voilà, le meilleur du Bitcoin, c'est devenu la blockchain. Et le titre, donc concomitamment au fait que les R3CEV aient vu le jour, il y a eu cette fameuse une de la revue The Economist qui titrait « Blockchain the Trust Machine ». La machine a donné de la confiance. C'était un bon titre. Mais, il a suffi. Vous voyez que les R3CEV existent toujours. R3CEV a embauché beaucoup d'anciens développeurs Bitcoin. Pas tous, mais enfin certains, comme Mike Hearn, qui était assez charismatique. Bon, et encore. Et a produit, R3CEV a produit ce qui ressemble à une blockchain, mais qui n'est pas une blockchain. Donc, vous voyez, ils ont élaboré une solution qui n'est pas une blockchain. Donc, probablement, la solution retenue par les banques centrales pour créer une monnaie décentralisée ne sera pas à base de blockchain. Et c'est normal. C'est normal. La base de données est beaucoup trop lourde. Et la blockchain, en tout cas, telle qu'elle est conçue par les crypto-monnaies, est lourde, mais elle a le mérite de donner lieu à une monnaie décentralisée. Ce n'est pas le problème des banques centrales qu'on connaît. Donc, ils adopteront une autre solution, très vraisemblablement.
Oui, alors, je connais la réponse, mais est-ce que si on poussait un petit peu plus loin les mathématiques sur les crypto-monnaies et éventuellement sur la blockchain, est-ce qu'on pourrait arriver à de nouvelles mathématiques ?
Oh ben non, là je pense pas. Remarquez, j'en sais rien. Hein. Je ne sais pas. Mais
je sais pas, on sait. Y a personne ne sait alors. Hein.
Non, mais on peut pas savoir. Là, les mathématiques du Bitcoin sont assez pauvres. Hein. Après, les mathématiques que j'ai vues là sur IOTA, c'est beaucoup plus sophistiqué et c'est tellement sophistiqué que. On sait pas très clair quoi. La monnaie IOTA là a été. Je peux pas garantir. Il y a pas de théorème derrière qui dit ça marche. Point. Il y a des raisons qui font que ça marche. Donc des mathématiques intéressantes, mais on n'invente pas de nouvelles mathématiques pour résoudre les problèmes avec des crypto-monnaies. Je vois mal des nouvelles mathématiques qui puissent naître. Non, mais par contre, c'est quand même déjà pas mal, quoi. L'invention des smart contracts et les réseaux décentralisés et les crypto-monnaies, ça mérite, ça mérite des prix en cryptographie, clairement, et en informatique, quoi. Enfin, il y a des prix en informatique et en cryptographie. Ça, c'est des inventions majeures. Donc ça mérite des prix, clairement. Alors, en maths proprement dit, là quand même les maths c'est quand même assez sophistiqué, hein. Et puis même la théorie des probas, enfin c'est sophistiqué, enfin c'est non, on en est très très loin du haut niveau en maths là. Faut pas espérer une chose pareille, je pense pas.
Alors Cyril Grinspan, vous nous faites aujourd'hui l'honneur et le plaisir d'accueillir C'est l'info ici, donc dans ce pôle Léonard de Vinci, dans cette école que vous dirigez depuis 3 ans, école d'ingénierie informatique. Et justement, Mickey Monstre a en tout cas une question pour vous à propos de cette
Absolument,
école.
Absolument, oui. Alors vous nous accueillez aujourd'hui dans votre magnifique école.
Merci.
Qui a eu l'idée de former les étudiants à la blockchain et au Bitcoin et de les former à un aussi haut niveau?
Écoutez, oui, on a eu cette idée-là. M'a présenté comme professeur au pôle universitaire Léonard de Vinci. Oui, c'est tout à fait vrai. Simplement, le pôle universitaire Léonard de Vinci, c'est donc, comme son nom l'indique, un pôle universitaire, un bâtiment qui abrite différentes ou qui accueille différentes universités et écoles. Voilà, il y a des écoles de commerce qui donnent cours ici. Il y a des universités publiques qui donnent cours ici. Et puis il y a les écoles historiques qui ont été créées en même temps que le pôle et qui ont toujours qui portent le même nom que le pôle, c'est-à-dire Léonard de Vinci. Et qui ont toujours donné les cours dans ce bâtiment. Et je travaille pour l'une d'elles, pour une école d'ingénieurs qui s'appelle l'École supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci. C'est voilà, donc bah écoutez, oui, j'ai eu l'idée de d'abord c'était un constat quoi, c'était à un moment donné on réalise que c'est une chose qui est intéressante, hein, qui mérite d'être enseignée. Voilà, c'est un sujet scientifique. Et on s'est lancé là-dedans.
Très certainement il y avoir du travail pour plus tard.
Alors, effectivement au départ quand on s'est lancé, il y avait pas encore de buzz, hein. Puisque c'est les premiers cours étaient donnés, je sais plus, à 3 ans peut-être. Il n'y avait pas encore tout ce buzz, mais aujourd'hui c'est phénoménal. Quelqu'un qui veut un stage blockchain, bon, bah, il y a plus d'offres que de candidats. Vous voyez ? Donc ils n'ont aucun problème, les étudiants de l'ESILV, pour trouver un stage, aucun problème, puisqu'ils ont on les forme, voilà, ils savent rédiger des smart contracts, ils connaissent, ils ont des cours de développement blockchain. Bon. Alors après, évidemment, ils ne sont pas aussi rodés que des vrais développeurs qui ont 20 ans de métier. Ils ne connaissent pas totalement les maths des protocoles parfaitement, mais c'est des étudiants, voilà, et ils se formeront. Mais en tout cas, ils sont quand même opérationnels pour, dans la plupart des cas. Hein. Voilà, ben, tant mieux, on a réussi notre coup, quoi. On a dit que j'avais pensé que c'était un sujet intéressant qui m'était... qui valait la peine d'être enseigné, on l'a fait, et bingo, voilà. Bon, cela dit, maintenant, ça n'a plus rien d'extraordinaire, hein. On a été copié par toutes sortes d'écoles, d'ingénieurs, tant mieux, ça prouve qu'on a eu raison, moi je suis très content, hein. De même que le séminaire de recherche qu'on avait créé a été copié, eh bien tant mieux, ça prouve qu'on... Quand on est copié, c'est bien, c'est une bonne chose, ça prouve qu'on a raison. Il y a une chose que les autres ne pourront pas nous enlever, c'est l'antériorité, vous voyez, c'est comme la blockchain, on peut prouver qu'on était avant les autres. Voilà, alors maintenant la blockchain effectivement occupe une grande place dans la vie de l'école, hein, à travers des projets que réalisent les étudiants, aussi bien en quatrième année et en cinquième année, avec en collaboration avec des start-up, donc ça c'est super. Il y a après des cours dédiés, des cours aussi bien en quatrième et en cinquième année, voilà, par des professionnels, voilà, toutes sortes de cours. Il y a une filière, en fait, il y a une filière fintech. Voilà. On a créé non seulement les premiers cours sur le Bitcoin et les monnaies numériques, mais on a créé également probablement la première option fintech, parce qu'il n'y a pas le Bitcoin et il n'y a pas que le Bitcoin dans la vie. Les fintech, ce n'est pas uniquement l'univers blockchain. Voilà, on a créé une option fintech pour former, dont le but c'est de former des jeunes ingénieurs qui intégreraient ces start-up innovantes qui révolutionnent le monde du paiement en général, le monde de la finance, même encore plus généralement. Voilà.
Merci. Voilà. Merci beaucoup, donc, Cyril Grinspan, de nous avoir accueillis dans ce pôle Léonard de Vinci, en plein cœur du quartier de Paris de la Défense, hein, directeur du département ingénierie et financière du pôle Léonard de Vinci. Merci également à Mickey Monstre d'avoir été en duplex avec nous pour cet entretien un petit peu particulier et un petit peu plus long que d'habitude.
C'est l'info, votre double page info du week-end, Martha Arnaud.
Voilà, j'espère qu'en tout cas cet entretien avec Cyril Grinspan vous a plu, vous a éclairé sur un sujet aussi complexe que sont les crypto-monnaies, le Bitcoin et la blockchain. Évidemment, hein, plein d'autres actualités cette semaine que nous n'avons pas eu le temps de traiter, la proportionnelle, la réforme constitutionnelle, mais on en avait parlé un petit peu, hein, avec les voix de l'Hexagone et Pierre-Henri Pollet la semaine dernière. Je vous invite à écouter notre podcast. Et puis au Brésil, la chute de l'icône de la gauche brésilienne, Lula, qui a été jugée cette semaine. Moi, je vous retrouve donc la semaine prochaine pour le 33e numéro de C'est l'Info. Sachez que Gaëtan Hellmans, Franck Payanav seront de retour. Hein. Ils étaient cette semaine de repos, un repos bien mérité. Moi, je vous retrouve donc la semaine prochaine avec le reste de l'équipe de C'est l'Info. D'ici là, passez une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous.